partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Chers auditeurs, aujourd'hui, je suis extrêmement heureux de recevoir M. Azariah Roulandom, qui est originaire des Indes, et notamment des fameux cinq comptoirs que la France a longtemps possédés. Et c'est Azariah Roulandom qui va nous parler de cette francophilie indienne qui est très riche, très intéressante, et nous ne savons pas toujours que le français est la première langue étrangère la plus enseignée en Inde, bien entendu, à côté, j'ai dit la première langue étrangère, parce que les deux langues officielles, les deux grandes langues officielles, sont l'hindi et l'anglais. Alors, Azariah Roulandom, vous êtes le président fondateur de l'association internationale Tagore Sangam pour la connaissance et le rayonnement de l'œuvre de Rabindranath Tagore. Dans ce cadre, vous avez réalisé une exposition bilingue itinérante sur les pas de Tagore, la plus importante à ce jour en Europe. Elle a circulé, je le rappelle, à l'UNESCO en 2002, en Guadeloupe en 2004 à l'aide du Conseil général, et Paris et dans sa région parisienne à partir de 2003, 2005, 2006, 2007 et jusqu'à aujourd'hui. Et ça va certainement se poursuivre en 2010, 2011 et 2012, etc. etc. Et n'oublions pas que l'association que vous présidez, Tagore Sangam, participe depuis 10 ans au Printemps des Poètes, à lire en fait que vous étiez, elle était présente au Salon du Livre de Paris en 2007, lorsque l'Inde était l'invité d'honneur. Et vous organisez régulièrement des événements liés à la culture et au cinéma indien, et notamment grâce à votre parcours de consultant international auprès d'institutions et d'entreprises privées. Vous êtes notamment aussi un homme modeste et discret, mais vous êtes professeur de management interculturel, ce qui est important, de négociation internationale, et surtout, vous défendez, ou plus exactement, vous nous révélez la culture et la civilisation indienne, asiatique et africaine. Donc, bienvenue chez les auditeurs de Canal Académie, cher Azariah Roulandom. Et vous savez que cette belle radio Canal Académie permet à l'Académie française de rayonner. Donc, à vous la parole et nous allons être très heureux de connaître d'abord votre parcours avant que vous nous parliez des relations entre la France et l'Inde, etc.
Je vous remercie beaucoup de votre accueil au sein de votre radio, l'Académie. Et cette première approche qu'avec vous me permet de dire que quand je suis arrivé en France vers l'âge de 17 ans, ça a été surtout pour apprendre, non seulement poursuivre mes études scolaires, aussi bien au niveau, je dirais, lycée, collège, lycée jusqu'à l'université. Et à ce niveau-là, c'est surtout en même temps pour approfondir la connaissance de la culture française. Et cette culture française, je, au fur et à mesure de mes expériences universitaires, notamment, côtoyer des hommes de tout niveau, c'est aussi bien au niveau spirituel qu'au niveau intellectuel. Et c'est ainsi que la langue française, pour moi, est premièrement une langue assez riche, aussi bien sur le plan de vue littéraire, sur le plan de vue politique, sur le plan de vue musical. Et c'est ainsi que, parmi les grands hommes que j'ai beaucoup appréciés, il y a bien sûr Pascal, Lamartine, surtout Jean de La Fontaine, et Alexandre Dumas à travers ses grands romans comme Les Trois Mousquetaires, comme également, je dirais, Le Comte de Monte Cristo.
Et oui, bien sûr, une œuvre solide.
Solide, absolument, ouais. Qui est, je dirais, presque universelle. Mais il y a Victor Hugo, Chateaubriand, et je crois que j'en passe avec les grands écrivains contemporains, je dirais, avec à travers Saint-Exupéry, Charles Péguy, André Malraux. Pardon, parce qu'André Malraux, il ne faut pas oublier que c'est lui qui a beaucoup parlé de l'Inde. Et c'est lui qui a, en quelque sorte, l'Inde peut remercier André Malraux à travers faire connaître le français et la France.
Ah oui, on peut dire que c'est vraiment Malraux. D'ailleurs, ce qui est très, très intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'au fond, Malraux n'a jamais écrit un roman sur l'Inde, oui. Ai-je lu quelque part, mais a énormément parlé de l'Inde dans même un peu ses mémoires ou dans des communications, etc. Oui. Il a été très touché par l'Inde.
Oui, parce que lui, c'est le grand paradoxe, comme vous dites, il n'a jamais écrit sur l'Inde.
De romans,
mais il a été plusieurs fois en Inde. Bon, il a rencontré notamment Nehru, il a rencontré beaucoup de personnes comme ça en Inde. Mais pour lui, c'est un passage initiatique à travers ce qu'elle a écrit, qu'on appelle, il a dit, c'est le secret du monde. hein, dans ses ouvrages comme ses Antimémoires en 1967, hein, il a parlé de ça. Donc je crois que pour lui, l'Inde, il a dit lui-même qu'on retrouve dans ce pays originel et immémoriaux l'ordre, l'univers symbolique dont l'Occident moderne s'est vraiment coupé et qu'il a perdu. Et c'est là que je crois qu'avant lui, et dans la même période, il y a également Chateaubriand. Chateaubriand également a beaucoup aimé l'Inde. Il a été en Inde, mais également, c'est pour lui, Chateaubriand a fait pour une démarche, comme André Malraux, un pèlerinage.
Ah oui, une sorte de pèlerinage. Oui.
Et donc je crois qu'on peut continuer en disant que parmi les grandes personnes qui ont écrit sur l'Inde, qui ont beaucoup aimé l'Inde, on peut trouver Victor Hugo. Victor Hugo et Lamartine. Donc ils ont également, ce sont des gens qui ont, se sont inspirés. C'est des grands poètes de cette époque-là, de la poésie de l'Inde, de la culture indienne. Et il faut dire que Lamartine, par exemple, a parlé, aime beaucoup l'Inde sans restriction. Il a même dit qu'il va jusqu'à déplorer de ne pas être lui-même un poète indien.
Ah ah.
Vous voyez. Et dire que...
Lamartine a dit ça.
Ah oui, Lamartine a dit ça. Et non seulement ça, et vous savez qu'au siècle de Louis XIV, on était à la période helléniste. C'est-à-dire qu'on préoccupait généralement de ce qui est de la partie non-orientaliste. Et aujourd'hui, depuis, après Louis XIV, eh bien, l'Orient, l'Inde notamment, apparaît comme le véritable berceau de l'humanité. Et il disait qu'il va supplanter toute la partie helléniste, c'est-à-dire le Rome, la Grèce et la Judée, et devient en quelque sorte un accroissement, je dirais, à supplanter tous ces éléments-là. Et en 1814, le Collège de France, la Société asiatique de Paris a créé une chaire sur la langue sanskrite. Alors, vous voyez, ça remonte assez loin. L'Inde a toujours été un berceau où la France a beaucoup apprécié et aimé.
Alors, est-ce que tout ce que vous dites m'amène à vous poser un peu cette question? Au fond, est-ce qu'il y a plus, je dirais, d'attirance du côté des Français vers l'Inde ou encore plus du côté de l'Inde vers la France? Ou comment pourrait-on cerner cela? L'attirance est-elle réciproque? Parce que, par exemple, dans le cas de Malraux et Nehru, je pense que Malraux était plus attiré par l'Inde que Nehru ne l'était par la France.
Oui, absolument. Mais je dirais, il y a un mais, dans la mesure où Nehru, bon, soit la dominante anglaise, est plutôt quelqu'un qui a une culture anglaise, mais Nehru, comme Tagore, a beaucoup aimé l'Occident. L'Occident, aussi bien sa culture, Nehru, quand il est venu apprendre en Angleterre, il est venu en France aussi, apprendre la culture et surtout la littérature française. Donc la littérature française a toujours été une dominante pour les Indiens francophiles. Et encore aujourd'hui, lorsque les Indiens apprennent le français, mais c'est surtout pour l'orientation littéraire et non pas scientifique. Vous voyez,
oui, donc le côté scientifique est plutôt du côté anglophone,
absolument,
anglo-américain.
Absolument,
oui,
absolument. Et en fait, c'est pour ça que, bon, là, il y a la littérature anglo-saxonne, n'en parlons pas, mais avec Shakespeare, avec Hamlet, etc. Mais c'est la littérature française a toujours été une dominante parmi l'élitisme dans la culture, dans l'apprentissage de la langue française. La langue française, je dirais, en résumé, langue française est égale littérature.
Ah oui, d'accord. Donc la France égale littérature.
Voilà. Et c'est ainsi que, bon, encore aujourd'hui, la langue française, et c'est jusqu'en 1989, elle est la première langue étrangère obligatoire dans les écoles indiennes.
Jusqu'en 1989. Oui, ce qui est remarquable.
Voilà. Il est devenu optionnel partout, sauf dans les institutions hôtellerie et de tourisme, qui est resté toujours obligatoire. Donc, on pourrait dire qu'aujourd'hui encore, l'Inde est la première langue étrangère étudiée en Inde à tous les niveaux. Et donc, dans le site d'enseignement primaire, secondaire, il y a environ 300 000 élèves. Et sur les 300 000 élèves, il y a plus de 3 500 sont, ces chiffres-là, sont en constante augmentation.
Ah oui, oui. Oui, oui. Alors, donc pas oui, du tout de diminution.
Hein. Pas de diminution. Et je dirais qu'il y a 60 000 étudiants qui apprennent le français en Inde au niveau de l'enseignement supérieur, avec 500 enseignants. Et il y a plus de 26 000, c'est-à-dire 26 000 sur 60 000 étudiants qui viennent dans les établissements de l'Alliance française.
Donc sur ces 60 000 étudiants de niveau universitaire, 25 000 d'entre eux étudient à l'Alliance française.
Oui, dans le cadre. Il y a 15 Alliances françaises en Inde.
Ah, 15, oui, ce qui est tout à fait.
Alors, donc, c'est intéressant, en parlant d'Alliance française, dans le réseau d'Alliance française, l'Inde est le premier en Asie, du point de vue importance, et il est le troisième au monde après le Brésil et le Mexique.
Mais la Chine, maintenant, doit approcher de ce chiffre de 26 000 étudiants, quand même, je pense, maintenant, de façon très récente, si vous voulez.
Oui, plus récente, dans la mesure où, avec cette ouverture de l'Inde en 1991, grâce à l'actuel Premier ministre Manmohan Singh, qui a décrété en 1991 cette ouverture de l'Inde vers l'extérieur, parce qu'avant 1991, l'Inde a été un concept, je dirais, à la gandhienne, c'est-à-dire il y a une forme de fermeture à l'extérieur.
Ouais, ouais, ouais.
Et c'est le déclenchement socio-économique auquel Manmohan Singh a dit qu'il faut que l'Inde s'ouvre à l'extérieur, va vers l'extérieur.
Et c'est, ça date de 1991,
où il y a un déclenchement optionnel auquel l'Inde s'est éclatée vers l'extérieur avec la collaboration, la coopération avec l'Occident, hein, avec les deux autres pays étrangers.
Et c'est curieux parce que c'est à peu près la même période que la Chine, elle aussi, s'ouvre au monde extérieur, après la terrible période, enfin les périodes difficiles. Et donc, est-ce que l'Inde ne s'est pas rendu compte que s'il n'allait pas se tourner vers le monde, la Chine, elle allait peut-être aussi occuper beaucoup de terrain. Donc, il y a probablement un peu de compétition là. D'émulation.
C'est-à-dire que, si vous voulez, l'Inde, il y a une bonne coopération entre l'Inde et la Chine, dans un contexte, je dirais, économique et politique. Et donc, c'est des grands pôles à travers le monde. Hein. Et c'est ainsi que l'Inde a toujours vécu une forme d'autarcie. L'Inde aux Indiens, hein, c'est une entité, je dirais, prenée par...
Un monde clos.
Oui, mais prôné par Gandhi, surtout Gandhi, et Nehru qui suivait au travers l'orientation qu'ils se sont donnée. Et c'est à partir de là que, lorsque Manmohan Singh est ministre de l'économie, a dit non, l'Inde ne peut plus vivre en autarcie, entre ce que j'entends rapidement parlant. Il faut que l'Inde s'ouvre malgré ce pouvoir de développement interne, etc. Mais il a son potentiel, il faut l'ouvrir, échanger, collaborer. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est dans l'esprit auquel Tagore parlait déjà à l'époque, entre 1912 et 1934, et déjà même avec son grand-père, déjà travaillé, qui est un très grand commerçant, je dirais, a déjà travaillé avec l'Angleterre, avec d'autres pays. Alors c'est là, je dirais, cette ouverture avec l'Orient et l'Occident a déjà été parlée, écrit, demandé par Rabindranath Tagore. Et c'est là que, et je crois que l'Inde peut remercier que l'actuel Premier ministre, quand il était ministre de l'économie, Manmohan Singh, a vraiment tapé sur du poids, comme on dit.
Pour l'ouverture au monde. Maintenant, dans cette ouverture au
malgré monde... Malgré les opposants, il y a toujours des opposants.
Bien sûr.
Mais il a maintenu...
nationalistes très forts,
voilà,
etc. Hein. Pur et dur. Mais dans cette ouverture au monde... La France, quelle est la place donnée à la France, justement ?
La France, justement, a toujours gardé, à travers cette première colonie française, il ne faut pas oublier que à partir de 1792, que la France, avec Dupleix, est venue implanter ses 5 comptoirs français. Pour rappeler de mémoire, il y a Chandernagor au Bengale, il y a Yanaon sur la côte de Coromandel, il y a Pondichéry et Karikal sur le golfe du Bengale et Mahé sur la côte de Malabar près de Cochin. Donc ces 53 Français a été à partir de 1792 a été conquis ensuite par les Anglais en 1793 et c'est ainsi que lorsque l'Inde a eu son indépendance en 1947, bon, progressivement en 54, les 4 comptoirs demeurent français sont fusionnés, alors qu'un seul territoire qui forme un État à lui seul au sein de l'Union indienne, c'est Pondichéry. Alors, c'est ainsi que je crois que l'Inde fait partie des, on va pas parler des colonies de l'époque, les colonies c'est la colonie anglaise, mais l'Inde a eu quand même un apport comme par exemple le Portugal a eu Goa, vous avez également les Hollandais, donc la France a eu quand même 50 ans une présence française déjà à l'époque de en 1792.
Donc une présence tout à fait importante et dans le temps.
Oui, dans le temps, mais également, ce qu'il faut oublier, c'est que lorsque les Anglais ont pris l'Inde en 1793, le comptoir revint à la France grâce à la diplomatie de Talleyrand, qui, lors des congrès de Vienne, a repris la partie Pondichéry, auquel, bon, petit comptoir, quand la France a pu concret par vis-à-vis un pouvoir colonial important qui est l'Angleterre. Alors, c'est là, je dirais, qu'il y a une présence française quand même qui date de cette époque-là. Et donc, la France a toujours, la langue française est implantée. Et aujourd'hui encore, mettons sur Pondichéry, vous en avez quand même sur 7000 indiens, les ressortissants français, il y a quand même 500 qui continuent à parler le français.
Ah oui.
Parce qu'il ne faut pas oublier que pour Pondichéry, a participé aussi bien pour la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale.
Ah oui, vous avez eu des envois de volontaires.
Absolument, absolument. Qui ont répondu. Oui, et bien même pour l'appel
du
Général de Gaulle, il y a des Indiens qui sont venus aussi.
Ah oui, c'est très émouvant, ça.
Oui,
c'est...
donc il y a quand même, je vois mon père, par exemple, il a fait la Première Guerre mondiale, il a été à Verdun.
Ah, votre père a
oui,
été à Verdun.
Absolument. Alors... Donc, vous voyez, il y a des anciens combattants, très importants. Donc, Pondichéry, notamment, il existe toujours un club des anciens combattants.
Un amical
des anciens combattants, etc.
Ah, c'est... Oui, donc, c'est très, très émouvant et vous avez raison de le rappeler parce qu'il y a une contribution. D'ailleurs, si vous voulez, dans les milieux un peu informés, cela se sait, mais l'ensemble de la population ne sait pas forcément qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, des volontaires, des Français qui habitaient l'Inde et qui sont... Il est très bon de le rappeler. Nous vous remercions.
Donc, il y a une étroite collaboration et notamment, vous savez que tout récemment, c'est-à-dire en 2008, lorsque... Il y a la visite du Premier ministre indien à Paris, et auquel le président Sarkozy également, à chaque président, aussi bien au temps de Mitterrand, de Jacques Chirac, et puis
de
Giscard d'Estaing aussi, il n'y a aucun président français qui ne se sont pas rendus en Inde. Donc il y a toujours une étroite collaboration, une étroite coopération entre la France et l'Inde.
Alors, si maintenant je vois que le temps tourne, si je me permets de dire ça, venons-en un peu à Tagore. Je vois que là, vous avez quand même bien cerné le cadre. Votre père, un héros de Verdun, vous-même installé ici en France à partir de l'âge de 16 ans, les 7000 personnes de Pondichéry, la France qui s'est installée en 1792. Et puis alors vous, maintenant, vous êtes le président fondateur de l'association internationale Tagore Sangam. Alors pourquoi cette passion pour Tagore? Pourquoi vouloir nous parler de Tagore ici, dans notre pays de France? Cela nous intéresse.
Avant de parler de Tagore, je vais rajouter quelque chose, parce qu'on a parlé des Indiens et français en Inde. Je peux dire une chose, c'est que, parlant de la langue française, en 2007, il y a 1700 étudiants indiens qui fréquentaient les facultés françaises, contre 17000 étudiants chinois, parce qu'on parlait de la Chine. Alors, cette disparité, récemment, lorsque les Indiens ont préféré quoi ? Partir plutôt apprendre dans les pays anglo-saxons, pour des raisons d'approche de la langue, d'une part, et également sur le choc culturel est moindre. Et le président Nicolas Sarkozy, en janvier dernier, pour y un accord entre les universités, a voulu pallier cette carence entre les deux pays, a voulu signer, très récemment, voulait que tripler rapidement le nombre d'étudiants indiens en France. Donc, c'est pour ça, on espère que cet accord de collaboration, de coopération, l'échange entre les deux, parce que l'Inde a été invitée d'honneur l'année dernière ici à Paris, hein, comme en 2008, la France a été invitée d'honneur en Inde, et c'est ce qui fait que cette collaboration, aussi bien sur le plan économique, universitaire, technique, etc., continue toujours. Alors, pour venir à Tagore, Rabindranath Tagore.
Décrivez-le un petit peu pour nos auditeurs. Beaucoup de nos auditeurs connaissent, bien entendu, mais peut-être pas dans les détails. Donc, présentez-nous un peu rapidement la vie de Tagore en quelques phrases et deux, trois œuvres fondamentales, peut-être, juste pour que nos auditeurs aillent trouver cela dans les bonnes librairies et bibliothèques, etc.
Alors, Rabindranath Tagore, c'est quelqu'un qui est connu en Europe en 1913, car en 1913, il a reçu le prix Nobel de littérature. Et c'est à travers le prix Nobel de littérature qu'il est connu à travers le monde, car c'est le premier non-occidental, le premier asiatique et le premier indien à l'avoir reçu. Et Tagore est né le 7 mai 1861 au Bengale, agriculteur. Et à l'époque, c'est une des plus importantes villes de l'Inde. Et il est le 14e enfant, il est d'une famille aisée. Il grandit au fur et à mesure et son père, qui est un grand sage, lui a donné ce prénom, Rabindra. Ce nom-là signifie soleil. Et il disait, d'une manière très visionnaire, il disait, comme le soleil, tu iras de par le monde, et le monde sera illuminé. Et c'est ainsi que Tagore, il a vécu auprès de son père, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et bien sûr, il est parti en Angleterre pour faire ses études de droit. Mais quand il est dans sa jeunesse, c'est un élève très discipliné. Il n'a fait pas bonne école, comme on dit. Il dérangeait tout le monde, ses professeurs, etc. Et jusqu'à un moment donné, ses parents, ses frères et sœurs, sont des gens qui ont une certaine culture. Ils sont érudits. Son frère est mathématicien. Sa sœur est une des premières à avoir développé la littérature bengali en Inde. Donc, également, d'autres qui sont philosophes, d'autres musiciens. Et un jour, il dit à son père, parce que dans la plupart de ses écoles, on l'a toujours mis dehors, parce qu'il est très indiscipliné. Et c'est ainsi qu'un jour, son père l'a mis dans une école tenue par les jésuites. Et vous connaissez très bien à cette époque la rigueur des jésuites. Mais même avec cette école jésuite, et bien, au bout d'un an, il dit, on ne peut pas le tenir. Et quand il est sorti de l'enseignement traditionnel, il dit à son père, à ses parents, il dit, non, je voudrais, l'école ne m'apprend rien. Je perds mon temps, je préfère qu'apprendre avec vous, j'ai plus de choses à apprendre. C'est comme ça qu'à travers son entourage, il a beaucoup appris et il a dit, et c'est ainsi qu'il a créé la première université internationale, qui est
Santiniketan,
en 1901, oui. Et c'est ainsi que... Il a...
Donc, quand vous dites international, ça veut dire qu'on parlait plusieurs langues
dans
cette école-là.
Oui, mais avant qu'il soit international, c'est une école, c'est un ashram, comme on dit, tenue par son père. Et en 1901, cette école internationale, c'est Santiniketan, qu'il a intitulée « La demeure de la paix »,« L'arbre de la paix ». Et donc, cette école devient Vishwabharati en 1921, qui devient une université internationale. C'est la première université internationale auquel il a fait une ouverture en faisant venir des enseignants de toutes les origines, et toute nationalité, des Français, comme Sylvain Lévy, un Suisse, vous avez des pasteurs allemands, anglais, espagnols, mais également russes. Donc, pour donner cette dimension universelle.
Mondiale.
Mondiale.
Oui, mondiale.
Et c'est ainsi, lui-même, il apprenait avec ces gens-là. Il est sur les bancs de l'école. Et donc, c'est intéressant de savoir, l'esprit pédagogique de Tagore, c'est qu'il a dit lui-même, l'école ne doit pas être une prison. Donc, l'enseignement doit être cloisonné. Et c'est ainsi que cette école-là, elle se fait en plein air, sous l'arbre, comme on dit. Et encore aujourd'hui, ça continue. Alors, c'est ainsi que je crois que Tagore a non seulement est connu à travers comme un des poètes mais également il est écrivain, il est dramaturge.
Philosophe
acteur,
aussi.
Philosophe. Oui. Il est chanteur, musicien. Il est également pédagogue. Il est également acteur, mais également peintre à la fin de ses jours. Donc, il a un rayonnement, cette dimension universelle. Et entre 1912 et 1934, à travers ses conférences dues au prix Nobel de littérature, qui était traduit par André Gide en 1914, intitulé Gitanjali par André Gide, intitulé L'offrande lyrique.
L'enfant lyrique.
L'offrande lyrique.
L'offrande lyrique.
L'offrande lyrique. Et c'est à travers ce Nobel, les conférences qu'il a fait à travers le monde, et ces conférences, ce qu'on lui paye, ses prestations, c'est pour toujours pour son école. Il recherchait l'argent, comme on dit, pour son école. Et donc, à travers ce rayonnement, il a visité plus de 40 pays. Et ces 40 pays, aussi bien en Europe, en Occident, bien entendu, en Union soviétique,
en Argentine,
il a rencontré Vittorio Campo,
oui, bien sûr.
Et en Italie, il a été donc en France, il est venu à 5 reprises en France. Il a rencontré la comtesse Anne de Noailles. Il a bien sûr connu très bien Albert Kahn, qui à l'époque est un très grand industriel, et bien sûr Romain Rolland, qui pour lui est un meilleur ami, pour lui, il a toujours dit c'est son meilleur ami. Alors, et dans ses conférences, dans ses passages, dans tous ses écrits également, il a parlé de ce qu'on appelle déjà à l'époque sur le rapprochement entre l'Orient et l'Occident, et c'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui le dialogue des cultures, le rapprochement du dialogue des cultures, des civilisations.
Donc il est, on peut dire, un peu un précurseur dans le dialogue des cultures, surtout entre l'Inde et le monde.
Oui,
on peut dire ça.
Absolument. Et je dirais, il est un précurseur, autre chose encore, c'est parce que lorsque l'Inde a eu son indépendance, en 1947, et en 1954, lorsque la République est née, on cherchait, comme tout pays, un hymne national. Eh bien, personne ne s'est présenté. Et l'Inde a cherché à travers les hymnes patriotiques, parce que Tagore a toujours produit sur la défense, sur l'indépendance de l'Inde. Alors, à travers ces chants patriotiques, l'Inde a choisi un des grands poèmes des chants de Tagore. Et c'est ainsi que Tagore a composé l'hymne national indien sans le savoir, que lui, il a chanté en 1901 déjà.
Ah oui,
c'est... Et ce qui est intéressant, c'est que En 1977, lorsque le Bangladesh a eu son indépendance, a fait la même chose, cherchant à travers ses champs patriotiques. Personne ne s'est présenté, donc cherchant à travers les champs patriotiques, parce que Tagore est d'origine du Bengale. Et donc, parmi les champs patriotiques, ils ont trouvé celui de Tagore. Et Tagore, sans le savoir, a composé deux hymnes nationaux.
Donc Tagore, et je résume, car notre émission est en train de s'achever, Tagore est vraiment un personnage clé dans ce monde moderne, dans cette Inde moderne, et c'est Azari Arulandom, le président fondateur de l'association internationale Tagore Sangam, qui aujourd'hui nous a présenté, même brièvement, mais de façon très synthétique, ce merveilleux message de Tagore et que nous aurons l'occasion certainement d'explorer d'autres fois de façon encore plus attentive, etc. Merci beaucoup, cher Azari Arulandom, et vous êtes toujours le bienvenu ici à Canal Academy.
Je terminerai par une phrase de Romain Rolland qui disait « Tagore apaise et irradie, prophète de la voix universelle, pèlerin de la lumière et de la paix ».
Merci, et vous avez le dernier mot.
Merci beaucoup.